Alors, d'abord, une petite présentation de nos intervenants. Alors, Johan Morvan, vous allez nous parler donc des Juifs d'Istanbul, parcours et dilemme identitaire. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS, à l'IDMEC, spécialiste des questions urbaines et économiques, chercheur associé à l'Institut français...
Bah, j'étais, maintenant je ne suis plus.
Mais... Ah, vous y êtes plus.
C'est pas grave.
Ma foi, ouais. Bon.
Ça fait partie de la versatilité.
C'est ça. Et vous vous intéressez...
Je suis associé au Centre de recherche français à Jérusalem.
Voilà, j'allais y venir. Donc, parce que vous vous intéressez aux mutations urbanistiques, donc, notamment à Istanbul, vous allez nous en parler. Mais aussi, vous avez effectué des recherches sur les communautés juives du Caucase et à l'espace israélo-palestinien.
Exactement.
Très bien. Katia Boisvin, donc, vous allez nous parler de l'islam au protestantisme évangélique en Tunisie. Quels effets sur la langue du culte? Donc vous êtes chargé de recherche au CNRS à Muidemec et vous vous intéressez principalement donc à l'anthropologie religieuse des sociétés contemporaines au Maghreb, aux questions de pèlerinage, de sainteté féminine. Vous avez écrit une thèse là-dessus, si je ne me trompe pas. Et vous avez dirigé une ANR récemment qui s'est intitulée « Circulation religieuse et ancrage méditerranéen, État et internationalisation des faits religieux contemporains. Oui. » Europe du Sud, Maghreb, Moyen-Orient.
C'est un petit peu long,
mais il est complet comme ça. Et enfin, donc, le père Xavier Manzano, qui va nous parler, donc, il va faire une intervention qui s'intitule L'universalité du christianisme, de point annexion ou alliance. Alors, vous êtes prêtre diocésain, donc à l'archidiocèse de Marseille, et vous êtes directeur depuis 2016, c'est ça? Depuis
17.
De l'Institut catholique de la Méditerranée. Et est aussi professeur de philosophie dans diverses institutions et directeur du séminaire d'Aix-en-Provence. Voilà. Alors, avant de céder la parole, d'écouter nos intervenants, j'aimerais simplement donc, resituer à la fois cette séance de séminaire, mais également tenter de donner une définition des termes qui constituent, sous une perspective spécifiquement religieuse, le cadre de notre discussion aujourd'hui, donc la Méditerranée et le monde. Alors, je m'excuse d'ores et déjà du tropisme chrétien qui est le mien, de par mes objets de recherche, qu'on pourra bien sûr discuter à l'aune d'autres regards, et puis sans oublier le terreau commun entre les trois grandes religions méditerranéennes. Donc, dans une tentative de définir les termes de Méditerranée et de monde qui nous intéressent aujourd'hui, on peut d'emblée dresser le constat de la dimension mondiale de ces religions sur le plan géographique, donc matérialisé par les histoires coloniales, la circulation des hommes, notamment via la diaspora, le commerce ou encore les épopées missionnaires, sur lesquelles nous reviendrons abondamment, je crois. Ces multiples relations entre les religions méditerranéennes et le monde se sont matérialisées sur un plan géographique et historique, mais aussi concomitamment selon des conceptions anthropologiques qui les ont pour une bonne part précédées. C'est là-dessus que j'aimerais en venir. Donc, si le monde géographique prend une signification particulière à l'aube du XVIe siècle, qui devient un petit peu éblouissant pour penser la relation à l'autre, notamment dans l'histoire de l'Église, il n'en reste pas moins que les catégories intellectuelles, pour penser cette relation, sont déjà en place et à l'œuvre depuis au moins 1500 ans. En ce sens, le constat historique de la dimension mondiale de ces religions méditerranéennes doit nous interroger sur les fondements de leur vocation universelle, qui fondent leur originalité. Et donc cette volonté ou cette capacité à faire du même avec de l'autre. Donc si le monde est manifestement l'espace géographique de l'altérité, de la rencontre avec l'autre suscitée à la fois par des contingences économiques, politiques, à la hauteur des développements technologiques, la question c'est quel est cet autre qui trouve déjà une présence en creux? Je pense qu'une piste qui peut être intéressante à avancer pour la définition de ces termes, donc Méditerranée-Monde, pourrait débuter par la polysémie du vocable « monde », notamment dans les évangiles et, de manière plus générale, dans le Nouveau Testament. Le monde est donc un concept très particulier, qui n'est pas seulement géographique, qui est pensé comme une emprise matérielle, comme l'expérience du bien et du mal, et l'éloignement manifeste de Dieu. Donc il n'est plus seulement, comme je l'ai dit, un concept géographique, mais une réalité eschatologique qui traverse les individualités dans leur expérience terrestre. Alors à titre d'exemple, juste deux citations, dans Jean chapitre 5, verset 4, par exemple, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ou encore dans Jacques 4, verset 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc le monde, dans son sens à la fois matériel et eschatologique, c'est ainsi la conséquence du péché originel, en réalité. Le lieu de la déchéance de l'homme et de la vision béatifique, conçue comme l'origine et comme la fin de cette trame eschatologique, donc du retour en Éden, pour ainsi dire. Et il en découle que le monde, auquel on substitue parfois le terme de siècle, donc c'est intéressant, c'est à la fois la matière et le temps terrestre, s'opposent à un esprit éternel de vérité qui habite la pensée religieuse méditerranéenne. Donc le monde ou les pensées du monde, comme on le trouve aussi parfois, définissent en miroir tous les chemins qui ne mènent pas au salut. Justement, voilà, on en parle. C'est-à-dire à la sanctification et à la réconciliation à Dieu. Donc à savoir les innombrables idolâtries, mais également les considérations d'ordre, pour ainsi dire bassement matériel, ou pulsionnel, politique ou idéologique, sans conception spirituelle. Donc l'acception moderne de ce « monde » entre guillemets correspond, dans une sorte de lieu commun de la critique aujourd'hui, à ce qui pourrait être un matérialisme qui reconnaîtrait son idole en mammon, l'argent, la richesse, comme le veau d'or dans la Torah. En cela, la critique du monde moderne, qui est largement déchristianisée pour ce qui est de l'Occident et sous la menace de la sécularisation de masse pour les sociétés juives et islamiques, rejoint les autres mondes ou pensées du monde, elles aussi fondées sur le détournement du vrai Dieu et l'idolâtrie, telle qu'on retrouve depuis la géographie du Haut Moyen-Âge jusqu'aux épopées missionnaires jésuitiques et encore maintenant qui posent question. Donc c'est vraiment ce combat, ici et là-bas, entre le monde et ses idoles, qui constitue, on va dire, le gros du combat mené par le prosélytisme méditerranéen depuis ses débuts. Donc, à l'envers de la géographie, finalement, la Méditerranée, c'est comme ça qu'on pourrait l'amener, est perçue comme le cœur rayonnant de l'universel, alors que le monde, paradoxalement, est à la fois l'accumulation des cultures diverses et plus globalement, plus profondément peut-être, une altérité générique à la figure idéale du saint, au cœur de chaque être humain. Donc c'est ce monde et cette Méditerranée au cœur de chaque être humain. Donc une altérité qui est d'abord conçue par l'idée d'un manque, induit par cet exil de l'Éden, hein, du péché originel toujours, et qui constitue donc géographiquement, historiquement, une absence de révélation. Ça, on peut le voir dans de nombreux contextes, dans de nombreux contextes missionnaires, et notamment par rapport aux interprétations évangélistes plus récentes qui interprètent l'absence des évangiles dans les sociétés dans lesquelles arrivent les missionnaires comme précisément un éloignement de l'incarnation, un éloignement du livre aussi, pourquoi pas. Une absence du livre et donc peut-être de salut aussi. Je ne sais pas si on trouve un usage vétérotestamentaire, je ne crois pas, du terme « monde ». Très bien, alors on va en parler, fantastique.
Mais pas forcément en parler, mais bien sûr que si.
D'accord. Alors, j'ai recherché, mais ce qui m'a semblé être peut-être quelque chose qui pourrait s'y apparenter, c'est pas le terme « monde », mais le terme, alors si les traductions, il n'y a pas d'anachronisme entre les traductions, c'est le terme plutôt des nations. C'est les nations, quand on parle des nations. Alors, je continue mon idée. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, peut-être qu'on pourra en discuter, à considérer un certain changement de perspective induit précisément entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre donc les nations, le concept de nation dans l'Ancien Testament ou la Torah, et le monde dans les Évangiles, en ce qu'il signifie une forme d'altérité à la fois sociale et intérieure, en fait. Donc, comme si c'était un saut catégoriel qui passe peut-être d'un contour de l'ethnicité, les nations, s'opposant au peuple d'Israël.
C'est une incise pour quand même répondre. Ouais. En fait, il y a deux notions qui me paraissent importantes. C'est d'une part la notion de Olam, bien sûr. Olam Hazé, notre monde, Olam Haba, le monde qui vient. Hein, pas l'insurrection. Mais le monde qui vient avec une dimension métaphysique. Là, je n'ai plus en tête la racine de Olam, qui serait sans doute éclairante, mais il y a un autre mot qui est très très important, c'est Makom. Enfin, je réponds d'un point de vue théologique, métaphysique, pas sur la question des nations, qui serait un autre. Makom, le lieu, mais c'est en fait Dieu. D'accord. Dieu comme le lieu du monde, ça veut dire qu'il est partout.
D'accord, alors voilà, mais c'est là une divergence quand même assez, assez manifeste, je pense, avec une perspective, au moins catholique, je pense.
Je pense aussi, mais enfin, je ne suis pas spécialiste.
Alors, j'en reprends, donc, alors, je disais peut-être un saut catégoriel entre l'ethnicité, les nations s'opposant au peuple d'Israël et une altérité comprise peut-être dans une perspective proprement eschatologique et universelle, donc le monde qui s'oppose à l'Esprit Saint comme véhicule finalement de l'influence divine sur Terre. Alors, quoi qu'il en soit, la rencontre et la relation entre la Méditerranée et le monde est d'emblée structurée par une eschatologie, on le voit, qui découle du péché originel et par la volonté de conjuration, pour soi comme pour l'humanité entière, du rejet loin de Dieu, d'Allah ou d'Yahvé. Donc cette vocation universelle, finalement, c'est une tentative de résorption du fossé de l'iniquité devant le salut, et à la fois la proclamation d'une origine et d'un devenir commun, donc d'une humanité unie par un dessein partagé. Et je crois que c'est certainement là que gît l'originalité manifeste de cette Méditerranée eschatologique. Donc une conception qui est certes paradoxale et qui souffre de nombreux paradoxes, par exemple la conception prédestinationne chez les calvinistes qui pose la question du sens à l'intérieur de cette eschatologie qu'a l'existence d'êtres humains qui sont de toute éternité voués à la damnation. Ou peut-être aussi dans l'universalisme juif, qui peut-être, en les termes, indique une forme de paradoxe qui fait peut-être écho à une conception noachique de l'accomplissement du dessein d'Yahvé, où les gentils sont placés sous l'autorité d'un peuple prêtre ethniquement défini, ou alors encore l'exégèse takfiri.
L'autorité, c'est bien trop dire.
Hein. Trop dire. Bon, on en reparlera. Ou peut-être encore, pour un contexte musulman, l'exégèse takfiri du Coran qui préconiserait non pas la conversion, donc faire du même avec de l'autre, mais la destruction des infidèles. Donc l'autre, ou entre guillemets le mondain, est ainsi intégré d'emblée à une conception qui à la fois sépare par des catégories sociologiques qui sont fondamentalement basées sur l'eschatologie, les infidèles, les mécréants, les gojims, mais qui à la fois suppose une humanité de fait. Donc l'autre est par là un objet, l'objet d'un intérêt primordial, central, la relation à lui est notamment pour les chrétiens l'espace de la charité par excellence et donc pour ainsi dire un moyen d'accès au salut par cette charité, par cette altérité. Et c'est ce que j'en terminerai là et je laisserai la parole, ce que Diderot peut-être feignait de ne pas comprendre lorsqu'il analysait l'entreprise missionnaire comme étant une œuvre de pure vanité. Je le cite, il disait « Il est impossible qu'un lecteur qui réfléchit ne se demande pas à lui-même par quelle étrange manie un individu qui jouit dans sa patrie de toutes les commodités de la vie peut se résoudre à la fonction pénible et malheureuse de missionnaire. » Voilà. Eh bien, je crois que j'ai lancé peut-être quelques pistes un petit peu que j'espère suffisamment profondes pour discuter.
Un peu trop, presque.
Peut-être un peu trop, on verra. Et pour discuter maintenant de contextes ethnologiques extrêmement précis, historiquement situés.